Au Seigneur, nous prenons notre première lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 12. Évangile de Luc, chapitre 12. Avant de commencer la lecture, je voudrais introduire ce message par un témoignage, une anecdote. Il y a quelque temps, c'était en 2011 je crois, lorsque je me suis rendu dans mon pays d'origine, j'ai été dans la ville où mon père vivait. Et j'ai rencontré l'un de mes oncles et qu'il me dit « Tiens, j'ai rencontré une personne » qui m'a dit qu'il avait des documents concernant les terrains que ton père avait laissés. Mon père est décédé en 84. Alors, il me dit, on a les documents, mais il n'avait pas fini de payer la dette. En euros, ça représentait à peu près 130 euros. 130 euros. Donc, c'était pas grand-chose. Et il me dit, il nous a montré le terrain, mais je ne sais plus où est-ce que c'est, donc il faudrait que je profite d'aller le voir pendant que tu es là, pour qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Et entre-temps, l'oncle en question a traîné, et quand je l'ai eu au téléphone plus tard, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il en est par rapport au terrain? Il me dit, mais écoute, la personne qui savait où se trouve le terrain vient de décéder. Alors finalement, jusqu'à aujourd'hui, les choses sont dans la même situation. Il y a un terrain qui traîne quelque part où les membres de la famille ne savent pas exactement où est-ce qu'il est et par conséquent les enfants ne vont jamais hériter de tout cela. Alors en méditant là-dessus, je me suis dit, à l'époque mon père avait beaucoup de moyens et il avait acheté beaucoup de biens. Certains biens qui ont été retrouvés par ses frères et puis bon, qui ont été dilapidés. Et d'autres comme mon père n'exposaient pas les choses où on ne savait pas exactement qu'est-ce qu'il avait fait, où est-ce qu'il avait investi. Mais là, il y avait quand même un terrain qui avait été retrouvé. Et finalement, des années et des années après, ben le terrain est toujours à la disposition des oiseaux, à la disposition de la nature. Alors, à quoi ça a servi d'investir dans toutes ces choses-là s'il n'y avait pas un objectif derrière? Ça n'a servi à rien. Et il y a aujourd'hui des personnes qui investissent ça et là sans objectif. Ils placent leur argent, ça et là, sans objectif. C'est comme une garantie, comme une forme de sécurité. Mais voilà un homme qui avait acheté. Peut-être en se disant, ça sera pour mes enfants. Mais même les enfants n'en ont pas profité. Finalement, cet argent qui avait été investi dans ce terrain a servi à quoi? Et ce terrain, même aujourd'hui, sert à quoi? Ça ne sert à rien. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes passagers. Et malheureusement, même au milieu des chrétiens, il y a des gens qui ont des biens, ça et là, sans objectif, c'est-à-dire ils ont acheté juste pour le plaisir d'acheter. Il n'y avait pas un projet avec le Seigneur, il n'y avait pas un projet sur ce terrain ou bien dans l'argent qu'ils ont placé. Donc les choses sont en train de dormir sans être utilisées, alors que nous sommes appelés à être des économes pour Dieu. Et c'est le thème de notre partage ce matin, c'est que nous puissions revenir à ce qui est essentiel et considérer que ce que nous avons ne nous appartient pas. Mais ce que nous avons est à Dieu et nous devons être de simples gérants, des économes de Dieu qui vont gérer en fonction des besoins du Seigneur et en fonction de la volonté de Dieu. Job dit, nous sommes venus nus et nous repartirons nus. Que Dieu donne ou que Dieu reprenne, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais lorsque Dieu donne, la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi Dieu m'a donné? Est-ce que c'est pour que les choses restent dans un coin et que les choses vont pourrir sans qu'il n'y ait une utilité qui finira toujours par glorifier le Seigneur ou être utile d'une quelconque manière à certaines personnes? Malheureusement, c'est l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui où l'égoïsme, la convoitise a tellement pris le pas sur l'homme qu'aujourd'hui, beaucoup préfèrent posséder et ne pas utiliser plutôt que de partager. Combien de vêtements nous avons chez nous que nous n'utilisons pas? Combien de paires de chaussures nous avons chez nous que nous n'utilisons pas? À quoi ça sert d'avoir des choses qui prennent la poussière dans nos maisons? Ça pourrait servir à beaucoup de personnes. Pourquoi les avoir achetées? Il y a des choses qu'on a achetées en se disant, Je l'achète maintenant, c'était le dernier qui restait en magasin, mais c'est un peu trop juste. Mais je sais que je vais maigrir, donc dans quelques temps je vais le mettre. Mais ça fait des mois, tu n'as toujours pas maigri, la chose n'est pas portée. Donc pourquoi l'avoir acheté finalement? Dans Luc 12, il nous dit ceci, à partir du verset 16. Luc 12, verset 16. On va lire au verset 13 pour rester dans le contexte. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus leur répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Mais il en a été ainsi pour mon propre père. Qui a amassé, mais pour qui? Pour sa propre gloire. Mais finalement, personne n'en profite aujourd'hui, même pas ses enfants. Et le Seigneur voit le souci que les hommes ont de se départager en ce qui concerne les biens terrestres. Il dit, mais je ne suis pas venu pour ça. Dieu ne m'a pas envoyé pour vous partager, pour être l'avocat de l'un ou de l'autre, pour être le notaire. Non. Il dit, regardez cet homme-là, qui a amassé dans les greniers. La Bible dit qu'il ne savait que faire. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun projet en réalité. Il ne savait pas quoi faire. Il a amassé sans véritable objectif, sans but précis. Il a amassé pour amasser. Sans tenir compte de quelle était la volonté de Dieu dans la grâce que Dieu lui permettait de pouvoir posséder en grand nombre. Alors il s'est dit, bon, je vais abattre, je vais encore renforcer ma récolte et voilà mon âme, maintenant tu vas bien te réjouir. Tu vas bien profiter. Il y a des gens bien aimés qui ont travaillé toute leur vie, qui ont fait des heures sup, non pas parce qu'ils avaient besoin de plus d'argent, mais parce qu'ils aimaient tout simplement l'argent. Parce qu'ils espéraient avoir une retraite paradisiaque, mais qui aujourd'hui sont en maison de retraite. Je discutais avec une sœur qui me disait qu'il travaillait dans une maison de retraite où il y avait des médecins, il y avait des notaires, il y avait des gens qui avaient eu des hautes fonctions. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas profiter de tout ce qu'ils ont amassé. Le Seigneur dit, il en sera de même pour celui qui n'est pas riche pour Dieu. Le Seigneur nous fait comprendre, bien-aimés, que les choses de la terre ne sont rien. Et ce ne sont que des moyens que Dieu met à notre disposition pour le glorifier lui et pour le servir. Mais voilà un homme qui a amassé sans objectif, sans but. Et il y a des gens qui amassent, qui ouvrent des comptes en banque, ça et là, et qui mettent, mais sans objectif. L'argent devient comme une sécurité, au cas où. Mais au cas où quoi? Et si le cancer arrive, ton argent va servir à quoi? Et si la mort arrive, ton argent va servir à quoi? Le Seigneur dit non, vous devez être riche pour Dieu. Considérez que ce que vous avez n'est pas à vous, mais appartient au Seigneur et vous êtes des gérants. Maintenant, dans la gestion que Dieu nous confie, le Seigneur n'interdit pas qu'on s'achète des vêtements. Il n'interdit pas qu'on s'achète une maison. Il n'interdit pas qu'on roule dans une voiture. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que nous devons le servir lui seul. Et c'est lui qui nous donnera l'inspiration de savoir quoi faire avec les biens et les moyens qu'il nous a donnés afin de le glorifier lui. Et voilà cet homme-là, mais qui n'a pas profité finalement de tout ce qu'il avait amassé. Et le Seigneur nous dit, mais il en sera de même. J'ai donné le témoignage de mon père, mais il y a beaucoup d'autres témoignages comme ça. Nous avons vu, bien-aimés, lorsque les dictateurs des pays arabes ont été chassés, les milliards et les milliards qu'on a retrouvés dans leur demeure. Mais ces milliards-là, toi tu es en prison, à quoi ça sert finalement? Tu aurais pu faire du bien au peuple avec tout cet argent-là. Tu aurais pu faire du bien à la population. Mais finalement, tu pensais que ça allait rester éternel. Aujourd'hui, tu te retrouves en prison avec les millions qui ne te seront jamais rendus. Ça ne sert à rien. Nous devons être riches pour le Seigneur et comprendre que ce que nous avons, c'est pour la gloire du Seigneur, que nous sommes appelés à être des économes pour Dieu. Stocker pour stocker, ce n'est pas la logique de l'Évangile. Stocker pour stocker, ce n'est pas la logique de Dieu. Vous pourrez bien aimer en réalité. Cet exemple nous montre aussi une réalité. C'est que nous croyons posséder quelque chose, mais nous ne possédons rien. Celui qui possède quelque chose, la chose est à lui. Personne ne peut lui enlever. Il y a des gens qui possédaient des maisons. Ils disaient, c'est ma maison. Personne ne va me l'enlever. Mais lorsque la crise économique a frappé le pays, qu'est-ce qui s'est passé? La maison que tu disais être à toi, elle est où aujourd'hui? Elle a été ravie par les banques. Certains pensaient dire, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Ils ont fait confiance à des agences pour faire des placements. Ils se sont fait escroquer. Cela montre que tu pensais que c'était à toi, mais ce n'était pas à toi. D'autres pensaient, c'est mon château, c'est mon héritage. Avant même d'entrer dans cet héritage-là, il est mort. Donc finalement, ce n'était pas à toi. La chose qui peut être à nous de façon éternelle, c'est la vie que Dieu nous propose. C'est la vie que Dieu nous donne. Il n'y a que pour la vie éternelle où nous pouvons avoir cette assurance-là que j'ai quelque chose que personne ne pourra me ravir. Mais tout ce que nous pouvons posséder sur la terre, entre guillemets, en réalité, nous ne le possédons pas. C'est une illusion de croire que nous sommes propriétaires de quelque chose. Nous ne sommes propriétaires de rien, en réalité. La vie nous le prête, ou plutôt Dieu nous le prête. Mais tout ça, c'est pour un moment de, comment dire, à temps réduit, à temps défini. Penser que les choses seront toujours à nous, bien aimés, c'est une fausseté. Parce que la mort nous prouvera que finalement, tu n'as rien. Et comme le Seigneur dit, mais tout ce que tu as amassé finalement, ça servira à qui? Ça servira à qui? Il y a des pays là où les traditions de famille sont tellement fortes que même lorsque un parent décède et qu'il décide de léguer aux enfants qui sont encore jeunes, oh là là, avant même qu'il a atteint 18 ans, les oncles et les tantes ont déjà tout pris. Ils ont déjà tout pris l'héritage. L'enfant grandit, il apprend que, ben, il y avait un héritage, mais les oncles sont passés par là. Nous ne possédons rien. Mais l'assurance que Dieu nous donne, c'est de posséder la vie éternelle. Et c'est à cette vie éternelle que nous devons nous attacher. C'est à cette vie éternelle que nous devons travailler pour garder ce que le Seigneur nous a donné véritablement. Mais tout le reste, bien aimé, passera et ne sera d'utilité pour personne après nous. Nous prenons Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, verset 1er. Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. En faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répond-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans leur tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Cet économe infidèle est trouvé escroc devant son patron. Le rapport a été fait que celui-ci est en train de dissiper tes biens. Au lieu de gérer les choses telles que tu lui avais confiées, il les gère pour son propre compte. Donc il ne tient pas compte que c'est un employé. Il considère quelque part que c'est à lui et qu'il fait ce qu'il veut de ce que tu lui as demandé de gérer. C'était le même cas pour celui qui a amassé dans les greniers. Il a amassé pour sa propre cause. Il a amassé sans tenir compte de celui qu'il avait créé, en pensant être fort et de se dire « je vais pouvoir gérer et faire comme je veux ». Mais Dieu lui a rappelé que tu n'es même pas propriétaire de ces choses. Et pour te le démontrer, je veux te montrer que tu n'es même pas propriétaire de ta vie parce que je vais te la retirer. Et voilà cet homme-là qui gère aussi les choses sans tenir compte de son chef, sans tenir compte de son patron, comme s'il était propriétaire des choses. Et le patron, voyant ça, lui dit « écoute, je vais en terminer avec toi. Tu n'es pas honnête, on ne peut plus travailler ensemble. » Il y a beaucoup de choses, bien-aimés, que nous voyons aujourd'hui, pour notre grande tristesse, dans l'Église, où les choses de l'Église sont gérées comme si elles appartenaient à un homme. L'homme ne tient plus compte que ce sont les brebis de Jésus, mais il considère que ce sont ses brebis à lui. Il considère que ce sont ses vaches à lait qui doivent être là pour le nourrir, qui doivent être là pour l'enrichir, qui doivent être là pour s'occuper de lui. Ils ne tiennent pas compte de la volonté de Dieu dans la gestion de l'œuvre. Ils considèrent que le don qu'il a reçu de guérison est devenu son gagne-pain. C'est ça qui fait la marque de son ministère et que quelque part, il s'enrichit avec ces choses-là. Il utilise le don de prophétie que Dieu lui a donné pour en faire sa réputation, sans tenir compte que la gloire doit revenir au Seigneur. Donc les biens ou les talents que Dieu lui a confiés, il les saisit pour lui et les gère pour sa propre vie. Et le Seigneur observe toutes ces choses-là. Et vient un temps, comme il l'a fait pour Saül, qui ne voulait pas obéir à Dieu lorsque Dieu lui a dit « Tu vas en guerre, tu tues tout !» Saül a décidé de tuer à moitié et puis d'offrir un sacrifice que Dieu ne lui avait pas demandé de faire. Tantôt, on lui demande d'attendre Samuel pour que Samuel, qui avait reçu cette onction de sacrificateur, vienne faire le sacrifice. Saül, voyant que les soldats l'abandonnaient, a eu peur pour son pouvoir et il a lui-même fait le sacrifice. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté parce qu'il n'a pas voulu obéir à l'ordre de Dieu. Il a considéré que le pouvoir était à lui. Il a considéré qu'il était le chef et qu'il pouvait décider au-delà de ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il n'a pas été un bon gérant du troupeau du peuple de Dieu. Et Dieu lui a dit, qui s'est retiré, je me suis choisi un autre homme. Celui-là, je n'en veux plus, le Seigneur va dire à Samuel. Je n'en veux plus, parce qu'il a géré comme si c'était à lui. Il est infidèle, donc je le rejette, je ne veux plus de lui. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme-là qui va être rejeté. Mais il va avoir une réaction qui nous montre clairement que l'homme est capable de très bien réfléchir. Il va être stratégique, il dit « j'ai tout perdu là, mais je vais quand même essayer de me faire des amis, puisque comme mon maître m'a rejeté, je ne sais plus où je vais tirer la couverture de mon côté, mais au moins si je me fais des amis, le jour où ça n'ira pas bien, je pourrai me retourner vers eux. » Alors il va arranger, toujours dans sa malhonnêteté, mais il va être très stratégique. Celui qui devait payer 100, il dit « non, note 50 ». Comme ça, cette personne-là a comme une dette vis-à-vis de lui. Et lorsque le chef va voir ça, il va dire, mais cet homme est vraiment très intelligent. Cet homme est vraiment très intelligent, ça veut dire que il était capable de bien gérer. L'homme n'a pas été créé animal. L'homme a été créé homme. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné l'autorité de gérer tout ce qui se trouvait sur la terre. Donc pour être capable de bien gérer, il fallait quand même que l'homme ait un minimum d'intelligence. Et Dieu a donné cette intelligence-là à l'homme. Et voilà cet homme, comment il va réagir? Et le chef va dire, il va louer cet homme-là. Il va dire, ben en tout cas, chapeau. Il a été très très fort. Non pas qu'il a loué le fait qu'il soit malhonnête. Il a loué le fait de sa capacité à s'adapter à la situation qui était devenue chaotique pour lui, pour quelque part s'en sortir. Et le Seigneur dit, mais il est beaucoup plus avisé. Il est beaucoup plus intelligent que les enfants de lumière, c'est-à-dire nous. Donc le Seigneur voit quelqu'un qui ne le connaît pas, dans sa façon de gérer, dit, mais il est beaucoup plus intelligent que les chrétiens. Et ça, c'est à notre honte. Et le Seigneur dit, que celui qui n'est pas fidèle, qui n'est pas fidèle dans les petites choses, ne sera plus non plus fidèle dans les grandes choses. Mais la question, c'est que qu'est-ce que le Seigneur appelle les petites choses? Et qu'est-ce que sont les grandes choses? Les petites choses, bien-aimées, ce sont toutes les choses liées à la terre. Même les milliards qu'il peut avoir sur ton compte, Dieu considère ça comme des petites choses. Tout ce que nous pouvons posséder, les grandes maisons, les voitures, Dieu considère ça comme des petites choses. Tout ce qui est lié à la terre est incomparable aux réalités célestes. Il n'y a pas d'indice de comparaison pour pouvoir savoir qui est-ce qui est mieux. Non, c'est on passe d'un monde à l'autre. Donc par conséquent, il n'y a pas la possibilité de donner une évaluation, de dire que tiens, telle chose du ciel, ça vaut 100 000 euros. Telle chose du ciel, ça vaut 1 milliard. C'est incomparable. Et ce sont ces choses-là que Dieu dit, ce sont des petites choses. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que le Seigneur nous éprouve dans ces petites choses. Dans tout ce qu'il appelle petites choses, les choses de la terre, qu'il nous confie, en réalité, il nous observe pour voir comment nous sommes capables de gérer les choses de la terre. Donc, il veut nous dire par là que si nous ne sommes pas capables de gérer les choses de la terre, comment va-t-il nous confier des choses liées au ciel? Il ne peut pas le faire. Donc, lorsque le Seigneur voit des hommes qui sont en train d'amasser, les choses dans les greniers, d'amasser des choses dans le compte en banque, d'amasser des maisons ça et là, d'amasser des terrains ça et là, sans qu'il y ait d'utilité, le Seigneur dit, mais si je lui donne le don de guérison, mais est-ce qu'il prendra la peine quand les gens viendront l'embêter pour prier? Mais il ne va pas prier, il va garder ça pour lui. Si je lui donne la capacité de bien chanter, est-ce qu'il pourra chanter même pour deux personnes? Mais il ne le fera pas, il voudra toujours remplir la salle. Donc à quoi ça sert de bénir à tel niveau spirituellement si les choses de la terre, il n'est pas capable de les dispenser, de bien les gérer comme moi je l'attends? Et c'est l'une des raisons pour laquelle, bien-aimés, nous tardons quelquefois à entrer dans notre appel. C'est pas que Dieu ne veut pas, c'est que Dieu voit déjà comment nous gérons les choses de la terre. Il dit, si je lui confie des choses spirituelles, il va les gérer comme les choses de la terre. Il est en train d'amasser des choses chez lui. Il y a des meubles là-bas qu'il n'utilise pas. Il y a 5 télévisions, je ne sais pas pourquoi. Il y a tant de choses, je ne sais pas pourquoi, des choses qu'il utilise une fois dans le mois, une fois dans l'année, alors que d'autres pourraient en avoir besoin, il n'utilise pas. Mais si je lui donne maintenant la responsabilité de gérer des âmes, est-ce qu'il va s'en occuper? Il va tout simplement les contempler. Puisque pour lui, certaines choses de la maison ou ce qu'il a acheté, ça devient comme des meubles de décoration. Quelque chose qui décore bien-aimé, c'est quelque chose qui est là tout simplement pour faire beau. On le dépoussière de temps en temps, mais il est à la même place, il reste à la même place. Et beaucoup gèrent les biens de Dieu comme des meubles de décoration. Ils sont là à la bonne place, ils sont là, ils les contemplent. Certains vont, ils regardent sur le compte en banque, ça lui fait de bien de voir que ah, c'est bien, et il se sent un peu soulagé, il éteint, voilà. Le lendemain, il va voir, est-ce que les prélèvements sont passés donc au centime près, donc à gripper. Et il est là, il regarde, est-ce que la banque ne m'a pas prélevé, ceci, cela. Mais Dieu, quand il voit ça, il dit, mais si je lui confie des choses spirituelles, finalement, ça va finir comment? Ça va finir comment? Dieu nous donne, non pas pour que ça reste au placard, que ça prenne la poussière, et que la mort vienne nous trouver les choses remplies de poussière, bien-aimées, ça aura servi à quoi? Ça n'aura servi à rien du tout. Ça n'aura servi à rien. Si aujourd'hui le Seigneur est obligé pour, qu'il y ait un minimum d'amour, de passer par les païens, bien-aimés, c'est honteux. C'est honteux. Si aujourd'hui le Seigneur utilise des païens pour faire du bien aux SDF, il utilise des païens, je voyais, il y avait, une émission, un reportage là, où une dame ou un homme, je crois, avait gagné au loto. Et elle a pratiquement tout donné aux associations. Elle a pratiquement tout donné. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ah, même les païens savent faire ça. Mais les chrétiens, ce n'est pas du tout le cas. Beaucoup de chrétiens, ce n'est pas du tout le cas. Ils sont là à réfléchir constamment, comment m'enrichir. La logique du ciel n'est plus. Et dans cette logique-là de comment m'enrichir, mais forcément qu'il ne dépense rien. Parce qu'il a le sentiment que quand il dépense, il perd. Or, la logique de Dieu n'est pas comme ça. Plus tu donnes, plus Dieu te remplace. Plus tu donnes, plus Dieu te donne davantage. Le Seigneur fonctionne comme ça. Mais si tu as déjà beaucoup, pourquoi Dieu va-t-il donner encore? Et nous sommes là en train de crier, Seigneur, sauve les membres de ma famille. Seigneur, sauve la France. Mais Jésus-Christ est mort pour ça. Il est mort pour le salut des membres de ta famille. Il est mort pour le salut des Français. Mais pourquoi Dieu tarde à le faire? Si ces âmes se convertissent, est-ce que tu pourras t'en occuper? Toi qui as beaucoup de biens qui prennent la poussière quelque part. Dieu voit que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas le moment. Change ta manière de vivre. Ainsi, lorsqu'il sauvera les gens qui sont autour de toi, tu pourras aussi bien t'occuper d'eux parce que tu as compris la logique du Seigneur. C'est ça que le Seigneur veut nous apprendre. Le Seigneur dit que celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, eh bien, il ne le sera plus, il ne sera pas non plus dans les grandes choses. Et le Seigneur dit que si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, mais qui vous confiera ce qui est à vous? Si dans le service dans lequel Dieu t'a engagé, peut-être à aider un frère, peut-être à aider une sœur dans un quelconque domaine, tu fais les choses à la légère parce que tu estimes que ce n'est pas à toi. Mais il y a des choses que Dieu voulait te donner, mais il voit que tu ne gères pas ce qui est à l'autre. Donc il dit, ce qui est à toi, je ne te le donnerai pas non plus. Dieu fonctionne comme ça. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous confiera ce qui est à vous? Dieu veut nous donner ce qui est à nous. Dieu veut nous donner ce qu'il a prévu pour nous. Le service auquel il nous a appelés. Dieu veut que nous puissions y entrer. Mais il observe comment nous sommes au service des autres. Mais lorsqu'on n'est pas fidèle avec les autres, Dieu considère qu'on ne sera pas non plus fidèle avec lui. C'est ça la réalité. Quand il dit ce qui est à nous, ce n'est pas que ça nous appartient. C'est à nous parce que Dieu travaille avec nous en quelque sorte. Dieu nous associe à cela. Mais en réalité, c'est à lui. Donc s'il voit qu'on n'a pas été fidèle avec ce qui est à quelqu'un d'autre, Dieu considère qu'on ne sera pas fidèle non plus avec lui. Et c'est la raison pour laquelle il ne nous confie pas toutes ces choses-là. Nous prenons Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25 à partir du verset 14. Et nous voyons dans ce passage-là, cette parabole, la raison pour laquelle Dieu peut nous bénir. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un troisième à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. » Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà ce que le Seigneur appelle un serviteur inutile, un gérant inutile. C'est quelqu'un qui a les choses et plutôt que de les faire fructifier, de les utiliser pour le compte du Seigneur, il va les enterrer quelque part bien au chaud. Bien aimé, la logique du stockage, ce n'est pas une logique biblique. Ça ne va pas dans le sens du Seigneur. La logique de mettre de côté pour mettre de côté, ça ne va pas. J'ai donné tout à l'heure l'exemple des vêtements, des chaussures, bien-aimés. C'est un exemple qui est parlant parce que je crois que, d'une manière générale, au moins 95% d'entre nous, on est concernés par ça. Ça nous a arrivé d'acheter et de stocker pour stocker. De garder des choses simplement pour garder. Il y a des choses qu'on garde sans intérêt. Ça nous est tous arrivé de le faire à un moment donné. Et ce n'est pas une logique biblique. Ce n'est pas la logique de Dieu. Alors puisque on s'oriente ou nous vivons dans cette logique-là, mais c'est normal qu'il y ait aussi des obstacles aux bénédictions de Dieu dans notre vie. Dieu, pour donner, il veut d'abord que tu te débarrasses pour faire de la place. Mais il n'y a pas de place parce que tu as trop stocké. Donc comment donner encore, puisque c'est déjà stocké? Et le Seigneur considère que celui qui stocke sans utiliser ce qu'il a pour servir le Seigneur, Dieu dit que c'est un serviteur qui est inutile, qui n'a pas compris ma logique. On voit le Seigneur qui va donner des talents, 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au dernier. Mais les deux premiers ont travaillé, ils ont utilisé cela et ils ont fructifié. Ils ont compris que Dieu les avait bénis, c'était pas pour les mettre sous la terre, c'était pour travailler. Et quand le Seigneur a vu, en revenant, qu'ils avaient compris cette logique-là, au lieu de conserver, ils l'ont utilisé pour la gloire de Dieu, Dieu a dit « bon et fidèle serviteur ». Voilà le fidèle serviteur. C'est celui qui a compris que je lui ai donné pour qu'il puisse travailler. Non pas pour que ça reste dans la poche ou pour que ça reste prendre la poussière. C'est pour travailler. Et le Seigneur a dit « puisque vous avez été fidèle en peu de choses, alors je veux vous en confier davantage ». Le test a été réussi. Vous avez compris ce que j'attendais de vous. Alors je suis libre maintenant. J'ai l'assurance, j'ai la confiance de vous confier davantage parce que je sais que vous allez bien gérer. Vous avez passé l'épreuve, vous avez passé le test, ça a été réussi. Donc je peux vous confier davantage. C'est ça la réalité. Lequel d'entre nous, bien-aimés, va confier des responsabilités à un enfant qui ne manifeste pas de maturité? On ne va pas lui confier de responsabilités. Quelqu'un qui n'est pas, mature, qui n'a pas montré qu'il est capable de s'occuper de telle ou de telle chose, tu ne vas pas lui dire, tiens, prends ma carte bleue, va au distributeur, tu me retires l'argent ou prends ma carte bleue, va faire des courses. Non, c'est en fonction de sa maturité, de ce qu'il aura prouvé, que tu dis, là, je peux lui confier la carte bleue, il peut aller. Je peux lui confier telle chose, il peut le faire. Mais tant que les choses ne sont pas montrées à nos yeux, comme si l'enfant était stable, est capable de s'occuper de lui, capable de s'occuper des petites choses que je lui ai confiées, je ne veux pas non plus lui confier de grandes choses. Tu peux parler à une personne, tu lui confies quelque chose qui n'est pas vraiment grave. Mais tu lui confies ça, 3 jours après, tu apprends que toute la moitié de la famille, tout le monde est au courant. Oh, tu dis, oh, juste ça, il va te divulguer comme ça. Mais est-ce que tu penses que s'il y a quelque chose d'important, tu vas lui dire? Tu ne lui diras pas. Parce que l'expérience que tu viens de vivre te montre que là, il risque de faire des dégâts. Et Dieu nous observe. Il voit comment nous gérons. Et en fonction de notre gestion, il dit, celui-ci, je peux lui confier plus. Il a compris ce que j'attendais de lui. Mais celui qui ne gère pas, qui ne montre rien, et la Bible nous dit une chose importante, c'est que Dieu a donné les talents à chacun en fonction de la capacité. C'est-à-dire en fonction de ce que Dieu connaissait de chacun, il a donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail que Dieu a donné n'était pas un travail trop élevé. Il savait que la personne avait la capacité pour gérer ce que Dieu lui avait donné. Et voilà l'homme qui manifeste la mauvaise foi. Il dit, moi je n'ai pas travaillé parce que j'ai peur, tu es méchant. Tu amasses là où tu n'as pas semé, donc j'ai peur, j'ai préféré mettre ça de côté et te rendre ce qui est à toi. Mais Dieu dit, mais si tu savais que j'étais méchant, si vraiment tu avais peur de moi, mais tu aurais réfléchi différemment. La preuve c'est que tu n'as pas peur. Parce que tu savais ce que j'attendais de toi. Je t'ai donné pour fructifier, mais tu n'as rien fait avec. Donc ça montre clairement que tu n'avais pas peur de moi. Et c'est là la mauvaise foi dans laquelle quelquefois nous sommes bien-aimés et que nous justifions. Oui, mais j'ai mis de côté, oui, il faut comprendre. Oui, mais c'est pour ça. J'ai mis de côté, oui, mais c'est pour ça. Oui, mais ça, j'avais acheté, oui, mais c'est pour ça. On commence à se justifier au lieu de s'humilier, de dire c'est vrai. J'ai acheté ça et là depuis des années, je ne fais rien avec ça. Ça aurait pu servir pour la gloire de Dieu. J'aurais dû prier de savoir comment le Seigneur va m'inspirer pour ça. Et on commence à se justifier, à se justifier. Oui, mais les vêtements là, oui, mais j'avais acheté, oui, mais parce que c'était des soldes, oui, mais... mais c'était des soldes, mais tu n'as pas mis. Il y a certains, quand c'est des soldes, ils pensent que... tout est permis, quoi. Carte blanche. Donc, sous prétexte que c'est des soldes, on peut acheter tout ce qu'on ne pouvait pas acheter en temps normal. Et c'est la fête. On y va, on y va, on y va. Et les choses sont là. Après, on commence à trafiquer un petit peu, on partage pour dire, bon, j'ai quand même partagé, mais non. La réalité, c'est dans quel but tu avais acheté. Si c'est pour stocker, quel est l'intérêt dans tout ça? Si c'est quelque chose que tu as acheté, glorifie Dieu, tu le portes. Tu le portes, Dieu prend plaisir à nous voir aussi à l'aise. Dieu prend plaisir à nous voir bien manger. Dieu prend plaisir à voir que nous sommes propres sur nous. Dieu n'a aucun problème avec ça. Mais si c'est pour stocker, bien aimé, Dieu dit, ce sont des serviteurs inutiles. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Dieu nous donne toutes choses, c'est pour un objectif. C'est à nous de méditer, de prier et d'être disposés à entendre la voix de Dieu qui te dira, telle chose je t'avais donnée, fais telle chose avec. Un jour, bien aimé, je me suis retrouvé dans cette configuration, mais ce n'est pas vraiment le discernement de Dieu qui m'avait orienté sur la bonne voie. C'était plus la peur. J'avais fait un travail il y a quelques années, et puis, des mois après, je reçois une grosse somme sur mon compte. Ah, j'ai dit à ma femme, c'est bizarre, il y a de l'argent qui est sorti là, mais je ne sais pas d'où ça vient, en tout cas, je ne touche pas. Ça m'a fait peur. Donc, j'ai appelé les organismes qui devaient me payer. Ils disent, non, c'est votre argent, c'est normal. Je dis, vous êtes sûr? Moi, je n'attendais pas ça, je ne sais même pas d'où ça sort. Non, on m'explique, non, c'est votre argent. Donc, on m'explique le calcul qu'ils ont fait. Je dis, ah, ok, c'est bon. Mais, toujours dans la crainte, j'ai dit, on attend d'abord un peu. Bien aimé, les jours qui ont suivi, il y a eu des factures aussi qu'on n'attendait pas qui sont arrivées. Ça nous a permis de régler les factures. Mais quand tu penses à toi-même, tu te dis, ça y est, c'est la fête. Tu vas, tu dépenses tout sans consulter Dieu. Trois jours après les factures arrivent, tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu dit, non, je t'avais donné. C'est ta convoitise et ta soif de vouloir posséder, ta soif de vouloir dépenser qui t'a mis dans des problèmes. Moi, j'avais pourvu pour ça. Et les gens se lancent et se précipitent sans consulter Dieu et de savoir, Seigneur, moi, je ne suis que ton gérant. Voilà ce que tu as mis à ma disposition. Qu'est-ce que je dois faire avec? Je prie le Seigneur et je m'attends à ce que le Seigneur me réponde. Mais il y en a, dès qu'ils reçoivent l'argent, ils tremblent. Ils tremblent. Il y en a même qui font des projets avec l'argent qui n'est pas eux. C'est-à-dire, ils font même des projets avec l'argent du découvert. Donc, ils savent que bon, j'ai droit à tant de découvert, je vais quand même m'acheter ça. Bien aimé, c'est honteux. C'est honteux. On doit vivre avec ce que Dieu nous donne et en fonction de ce que Dieu nous donne. Et si Dieu veut nous bénir, au-delà de ce que nous lui avons demandé, que son nom soit béni. Mais si Dieu veut nous bénir, juste le nécessaire, comme les apôtres ont dit, que nous ayons le vêtement ou le manger, cela nous suffit, que le nom du Seigneur soit béni. Mais vouloir à tout prix faire comme l'autre, vouloir à tout prix posséder pour posséder, non. Il y a des gens qui ont voulu acheter des maisons, non pas parce qu'ils avaient besoin d'acheter une maison, parce qu'ils ont vu que l'autre avait acheté. Alors, tu as donné des idées. Et beaucoup ont acheté, mais... Bien, mais vous savez, quand on fait comme ça là, ça veut dire, c'est dur. Ils ont acheté pour acheter sans calculer la dépense. Et aujourd'hui, ils se plaignent, je suis endetté. Mais il fallait rester locataire. Si ton salaire ne correspondait pas pour vivre comme un propriétaire, où est le problème? Le propriétaire, est-ce qu'on va l'enterrer avec sa maison? On ne va pas l'enterrer si Dieu lui fait grâce d'acheter. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais nous dormons tous sous un toit. Et de loin, c'est ça qui est important. Jésus-Christ a dit, même les renards ont des tanières, même les animaux, mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai rien. Ton propre maître n'a pas été propriétaire. Pourquoi réfléchir et se déranger à tout prix pour être propriétaire? Juste pour dire, je possède. Et petit à petit, la maison part en ruine, parce que tu n'as même pas les moyens de l'entretenir. On doit posséder pour le Seigneur. Nous sommes des gérants du Seigneur. Et après, les gens voient dire, ah, regarde, il a acheté la voiture. Parce que mon Dieu est roi, moi aussi je suis prince, ainsi de suite. Ah, mais la voiture est toujours en réserve, il n'a même pas l'argent pour le carburant. Une grosse voiture, un gros moteur, mais il ne peut pas. Bien aimé, après c'est la honte. Voilà, il a acheté pour une maison. Ah, demain on l'a expulsé, au grand on l'a expulsé. Parce qu'il n'avait pas les moyens. On dit, voilà les chrétiens, c'est ça ton Dieu, mais ton Dieu est où? Il ne t'a pas donné les moyens pour mettre le carburant? Il ne t'a pas donné les moyens pour payer ta maison? Te voilà en train de errer comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Comme si notre Dieu était pauvre, bien-aimé. Loin de là. Que le Seigneur nous éprouve en permettant la disette gloire à Dieu. Mais je sais que Dieu ne va pas s'endetter auprès de quelqu'un. Dieu ne s'endettera pas auprès de quelqu'un. ce que Dieu nous donne, ce qu'il a estimé nécessaire pour que l'on puisse vivre. C'est à nous d'apprendre à nous en contenter et de vivre avec ce que nous avons. C'est de cette manière-là que le Seigneur veut que nous puissions fonctionner. Tout ce que Dieu nous donne, il y a un objectif derrière. Nous prenons Genèse chapitre 41. Nous voyons un exemple de gestion. Genèse chapitre 41. Genèse 41, nous lisons à partir du verset 29. Alors, Pharaon va faire un songe. Et donc, Joseph va expliquer ce songe-là. Et au verset 29, il est dit, « Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toutes 7 années d'abondance. » Au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Voilà la réalité. Voilà l'exemple d'un homme qui avait compris. Dieu montre la vision. 7 années d'abondance. Mais derrière ces 7 années d'abondance, il y aura aussi 7 années de famine. Joseph donne la stratégie. Il dit voilà, les choses vont arriver, Dieu les a arrêtées et ça va se passer ainsi. Alors choisis quelqu'un d'intelligent et de sage qui sache gérer les choses de façon à ce que la famine ne détruise pas le pays. Et c'est là où le Seigneur va donner la stratégie à Joseph pour savoir comment il faut amasser, combien il faut retirer pour faire face à la famine. Bien-aimé, si le Seigneur nous demande d'amasser, si tu me dis Dieu m'a dit d'amasser, peut-être qu'il y aura aussi une famine en France. Gloire à Dieu si Dieu te l'a dit. Gloire à Dieu. Dans ce cas-là, je m'incline. Tu fais bien de faire comme Dieu t'a dit. Mais nous voyons la logique qui est derrière, bien-aimé. Que lorsque l'on met quelque chose de côté, il y a forcément un objectif là-dessus. Mettre juste pour mettre de côté, c'est en plus le témoignage du manque de foi. Il y en a qui mettent au cas où. Mais au cas où quoi? Au cas où Dieu serait mort. Mais si ton Dieu est mort, mais finalement, donc, ça ne sert même plus à rien aussi de lire la Bible. Mais si ton Dieu est vivant, pourquoi chercher des béquilles? Pourquoi chercher des roues de secours? Si demain ça ne va pas, Dieu pourvoira, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est notre papa et il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est à nous de méditer avec le Seigneur. Comprenons bien aimé ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que si nous avons des effets ça et là, de côté, que c'est mauvais. Je dis que ce qui est mauvais, c'est d'avoir ces choses de côté sans avoir un projet, sans que Dieu nous ait inspiré un projet. C'est ça que je dis qui est mauvais. Ça devient une sécurité qui va petit à petit nous enlever la foi. On n'aura plus la foi dans le Seigneur, mais on aura la foi sur ce qu'on a mis de côté, au cas où. C'est ça que je dénonce, bien-aimé. Maintenant, si le Seigneur nous emmène à mettre de côté, de façon libre, parce qu'il nous a communiqué une vision, parce qu'il y a un projet qui est derrière ça, alors obéissons aussi à la voix du Seigneur. Mais comprenons que la logique qui est là, c'est que le Seigneur ne veut pas qu'on stocke pour stocker. Je parle à tous les niveaux. Que l'on stocke pour stocker, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Et je vais conclure en parlant de ce qui est peut-être le plus important. C'est notre propre vie. Pourquoi stocker notre vie? C'est-à-dire pourquoi ne pas mettre notre vie au service de Dieu? Dans quel but nous nous réservons de servir le Seigneur? Dans quel but nous nous réservons de ne pas nous mettre à la disposition de Dieu? Dieu nous a donné la vie dans quel but? Dans le but de le servir. Il a donné Jésus-Christ pourquoi? Pour que nous soyons ses serviteurs, pour que nous soyons ses adorateurs. Alors pourquoi nous réserver? Dans quel but nous réserver? Certains ont même du mal à chanter, ont du mal à danser pour Dieu. Mais dans quel but tu te réserves de danser ou de chanter? Pour économiser quoi? Tu ne veux pas fatiguer le corps, tu travailles demain. Je ne sais pas, il y a peut-être une raison quelque part. Mais c'est cette raison-là, notre vie doit servir à la gloire de Dieu. Pourquoi mettre notre vie de côté? Et on va vieillir en prenant la poussière et toute notre vie, on n'aura jamais été utile au Seigneur. Mais à quoi ça sert finalement? Ça n'aura servi à rien. Le Seigneur nous maintient en vie parce qu'il y a aussi un objectif pour notre vie. Maintenant, la question, c'est de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que je suis créé uniquement pour venir m'asseoir tous les dimanches et écouter? Être chrétien ici et lorsque je suis dehors, je fais ce que je veux? Dieu ne nous a pas créés pour ça. Être chrétien, c'est pas bien aimer infirmier ou être docteur. Quand tu sors de ton bureau, tu fais ce que tu veux, y a pas de passion autour de toi. Il n'y a pas de passion autour de toi pour que tu occupes, pour que tu fasses des ordonnances. Mais quand tu es chrétien, que ce soit à la maison, au boulot, à l'église, partout, l'identité est là. Vous me voyez tel que je suis, mais quand je vais sortir dehors, je ne serai pas blanc. Je serai toujours le même. Parce que ça fait partie de moi. Et être chrétien, ça fait partie de nous. Et on ne doit pas l'être tout simplement dans un contexte particulier et ne pas l'être dans un autre contexte. Notre vie doit servir à la gloire de Dieu. Et lorsque le Seigneur voit, mais qu'on ne fait rien de notre vie, pour sa gloire à lui, il dit voilà. Top modèle, mannequin, tous ces trucs-là pour sa gloire. Photo sur Facebook, on change de position, tantôt on tourne à gauche, à droite. Dans quel but tout ça? Dans quel but tout ça? Pour que les gens voient, je ne sais pas, ta nouvelle paire de lunettes, d'autres mettent leur nouvelle paire de baskets en photo. Dans quel but? Dans quel but? Dieu, quand il voit ça, il dit voilà, les économes infidèles. La vue que je lui ai donnée, il la prend pour sa propre gloire. Il la prend pour sa réputation. Il dit, moi je suis fort, moi je suis beau, je suis belle. Voilà, je fais mon argent avec ça. Voilà, et ainsi va la vie. Et Dieu, lorsqu'il voit ça, il dit, mais ces gens-là ne sont pas riches pour moi. Donc finalement, à quoi ça sert aussi que Dieu nous laisse sur la terre? Et c'est peut-être la raison pour laquelle Dieu enlève certains chrétiens. Il dit, puisque toute sa vie, ça sera comme ça, donc autant que je le prenne maintenant, et puis on n'en parle plus. Parce qu'il ne veut pas me servir. Dieu nous a suscités pour qu'on le serve. Que notre vie soit mise au service de Dieu. C'est ça la volonté du Seigneur. C'est ça la volonté de Dieu. Mais la réalité, c'est quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui est fidèle dans les petites choses, qui n'est pas fidèle dans les petites choses, ne sera plus non plus dans les grandes. Et j'ai dit que les petites choses, c'était les choses qui sont liées à la terre. Ça veut dire que le Seigneur fait un lien entre la façon dont nous gérons les choses de la terre et la façon dont nous gérons notre propre vie. Si nous gérons les choses de la terre comme étant à nous, ben, c'est normal que notre vie aussi soit à nous. C'est logique. Mais celui qui a confié toute sa vie véritablement à Jésus, mais c'est bien aussi, il va les confier au Seigneur, c'est logique. Parce qu'il considère qu'il n'a rien à lui. Sa vie appartient au Seigneur. Donc forcément, tout ce qui est à lui, il donne tout. Bien aimé. Et dans cette logique-là, je réponds à une interrogation souvent qu'on nous pose. Oui, mais la question de la dîme et des offrandes. La dîme, c'était une question de 10% selon la loi. Mais nous ne sommes plus sans loi, nous sommes sous la grâce. Mais sous la grâce, toute notre vie maintenant appartient au Seigneur. Donc il n'y a plus question de 10%. Dieu peut même te dire, tu donnes 100% ce mois-ci. Parce que toute ta vie appartient au Seigneur. Mais que nous puissions le faire d'une manière libre. Bien aimé, comprenons que nous avons tout à gagner. Nous avons tout à gagner. Le Seigneur nous a aimés le premier. Et ce n'est que normal qu'en retour nous puissions aussi l'aimer. Lui, il s'est donné totalement. Il a donné toute sa vie, sans rien retenir, sans rien réserver. Il n'a pas dit, je vais donner 90% au cas où certains ne veulent pas être, il dit, je donne quand même les 100%. Même si certains ne viendront pas à moi, moi je me livre totalement. Alors en retour, qu'est-ce que nous pouvons faire, bien-aimés? Non seulement par reconnaissance, mais aussi par hommes avisés, qui ont compris que dans tous les cas, le ciel et la terre passeront. À quoi ça sert que j'amasse des choses? Beaucoup sont morts et ont laissé tout leur bien là. À quoi ça a servi? Ça a servi à quoi? Michael Jackson est mort, il a laissé énormément de biens. Énormément de biens, des dictateurs, on les a tués. Énormément de biens pour le plaisir quelquefois de beaucoup de gouvernements qui récupèrent toutes les villas qu'ils ont achetées. C'est tout. Voilà, et tout ça pour qui? Pour rien, bien-aimé. Alors que tous ces exemples-là nous servent, nous, d'avertissement. pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Si Dieu veut nous bénir au-delà, que son nom soit béni. On n'est pas tous appelés à être riches selon le monde. Dieu peut donner la richesse à certaines personnes et donner le nécessaire à d'autres. Ce n'est pas non plus un problème. Parce que ce qui est le plus important, c'est que nous ayons tous la vie éternelle. La vie éternelle est la seule vraie chose que nous possédons. Alors si tu penses que ta maison, c'est vraiment ta maison, la mort te rappellera que ce n'est pas à toi. Si tu penses que la terre que tu as achetée, c'est vraiment à toi, la mort te rappellera que ce n'est pas à toi. Et tu ne sais même pas ce qu'il en sera après toi. Tu ne sais même pas si ce que tu as laissé pour tes enfants, est-ce que réellement tes enfants en profiteront. Bien-aimé, la sécurité pour nos enfants, c'est de leur donner le Seigneur. C'est ça le meilleur héritage. C'est pourquoi David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. David avait compris que celui qui a été juste, Dieu se souvient aussi de ses enfants. Tu peux laisser toutes les choses de la terre à tes enfants, mais ce n'est pas ça qui va leur donner la vie éternelle. Ce n'est pas ça qui va donner la vie éternelle. C'est le Seigneur. Et même si aujourd'hui tu n'as rien de matériel à donner, le Dieu que tu lui donnes, lui sera capable de lui donner ce que tu aurais peut-être voulu lui donner. De loin, c'est ce qui est de plus important. Bien-aimés, arrêtons de nous tracasser pour les choses de la terre. Arrêtons de nous tracasser pour les choses de la terre, bien-aimés. Arrêtons. Il y a une sœur qui m'a posé la question hier concernant, oui, les assurances vie, tous ces trucs-là. J'ai dit en tout cas, que chacun fasse comme il est conduit. Je ne dis pas que celui qui fait, il pêche ou il ne pêche pas. Je dis tout simplement attention aux choix que nous faisons, bien-aimés, qui risquent de nous enlever la foi au Seigneur. Attention à tout ce qui nous sert de béquille, de sécurité en dehors du Seigneur. C'est le conseil que je nous donne, bien-aimés. C'est le conseil que je nous donne. Que le Seigneur nous bénisse, que la gloire revienne à Jésus-Christ seul et qu'il nous aide à considérer que nous lui appartenons et que par conséquent, nous sommes que des gestionnaires, gérant aussi la vie du Seigneur en fonction de ce qu'il attend de nous, servant le Seigneur. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Ça, c'est le cri du Seigneur. Ce n'est même pas moi, mais c'est le cri du Seigneur. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Or, la réalité, c'est que chaque chrétien, normalement, devrait être ouvrier. Chaque chrétien. Ouvrier, ce n'est pas pasteur. Ce n'est pas docteur, ce n'est pas prophète, ce n'est pas ça. Ouvrier, c'est serviteur de Dieu. Mais qui est serviteur de Dieu? C'est le chrétien. Pourquoi tu appelles Jésus-Christ ton Seigneur? C'est parce que tu as son service. Donc, si tu as son service, donc tu es son ouvrier. Donc, par conséquent, il faut chercher, Seigneur, comment te servir? Qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà toutes les choses que j'ai stockées jusqu'aujourd'hui. Seigneur, montre-moi maintenant qu'est-ce que je dois faire avec ça. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Nous allons prier, bien-aimés, afin que le Seigneur nous libère de l'influence du monde. Parce que quelquefois, ce qui nous influence, c'est la société de consommation dans laquelle nous sommes, qui nous pousse à tout prix à vouloir posséder, à vouloir acheter pour acheter. Et malheureusement, quelquefois, par faiblesse, par manque de vigilance, on tombe dans ce courant-là et on se retrouve aussi à faire des projets comme les païens, des projets qui n'ont ni queue ni tête et surtout qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur afin qu'il nous libère de toute forme d'influence. Ces influences qui créent aussi en nous une forme de convoitise liée à la jalousie. Des fois, c'est la jalousie tout simplement de voir l'autre posséder qui nous pousse à vouloir avoir aussi alors qu'on n'en a pas besoin. Donc vraiment, le Seigneur nous libère de toute cette influence, de tout mauvais sentiment qui nous pousse à vouloir posséder les choses uniquement pour faire comme les autres et qui après nous met dans des situations où on murmure contre le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous venons nous humilier devant toi, Seigneur, parce que tu es souverain et parce que nous avons compris, Seigneur Dieu de gloire, que en toi déjà nous sommes bénis. Seigneur, c'est vrai que le monde nous influence, le monde, Seigneur de gloire, nous emmène à vivre comme on ne devrait pas et quelquefois comme on ne l'avait pas aussi voulu, Seigneur, mais par faiblesse, par manque de vigilance, nous nous sommes fait avoir, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, on va quelquefois dire que les chrétiens sont pauvres. Mais Seigneur, toi, tu sais que nous ne sommes pas pauvres. La réalité, c'est que nous ne sommes pas de bons gestionnaires. Seigneur, nous ne voulons plus être des gérants à l'image du monde. Nous ne voulons plus de cela, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur de gloire, être délivrés de cette influence mondaine, Seigneur, qui nous empêche de te servir, qui nous empêche, Seigneur, de faire ta volonté comme tu l'attends de nous. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Nous venons nous humilier, Seigneur de gloire, parce que nous reconnaissons effectivement, Seigneur, que nous n'avons pas fait les choses toujours comme tu l'attendais. Nous te demandons pardon pour cela, Seigneur. Nous te demandons pardon pour cela. Seigneur, regarde combien de fois nous nous sommes retrouvés dans des difficultés financières. Seigneur, uniquement parce que on avait mal géré. On a voulu vivre avec des choses qu'on n'avait pas besoin. On n'a pas voulu se contenter d'une petite télévision. On est parti prendre des choses à crédit, Seigneur, alors qu'on n'en avait pas besoin. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout cela. Comme la Bible dit, Seigneur, que tu ne te lasses pas de pardonner. Seigneur, nous implorons ton pardon ce matin. Pardonne-nous, Seigneur, notre mauvaise gestion. Seigneur, tu nous as ouvert les yeux ce matin sur ce que tu as attendu de nous, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons aussi prier, Seigneur, afin que tu renouvelles notre intelligence. Seigneur, nous avons beaucoup de choses en réserve, des choses que nous n'utilisons pas, des choses qui pourraient être utiles pour ta gloire, Seigneur, des choses que nous pourrons fructifier pour ta gloire. Seigneur, donne-nous l'intelligence, la sagesse, Seigneur de gloire, que tu avais donnée à Joseph en Égypte. Seigneur, c'est notre prière, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur de gloire. Montre-nous la voie à suivre, Seigneur. Montre-nous, Seigneur de gloire, ce qui est bon et agréable pour toi. Car c'est toi que nous voulons servir. Dans le nom de Jésus. Seigneur, montre-nous comment gérer notre maison, Seigneur. Comment gérer les enfants que tu nous as confiés. Bien des fois, Seigneur, il nous est arrivé de faire de nos enfants des poupées, Seigneur. Nos objets personnels, Seigneur Dieu de gloire, pour notre propre gloire. Or, la réalité, que ce ne sont pas nos enfants. C'est toi qui nous les as confiés. Et comme tu as dit, Seigneur, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Mais cette voie, nous savons que c'est Jésus, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons apprendre à gérer nos maisons, à gérer nos enfants, Seigneur de gloire, selon ta parole, dans le nom de Jésus, car ce sont tes enfants. Et de la même manière, Seigneur Dieu de gloire, que dans cette parabole des talents, le maître est revenu un jour, Seigneur. Il est revenu un jour demander des comptes. Seigneur, un jour aussi tu reviendras demander des comptes. Un jour, Seigneur de gloire, tu nous demanderas qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Oh Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous allons prier le Seigneur et nous repentir pour nos propres vies. Au-delà des choses matérielles, notre propre vie, si nous ne l'avons pas gérée comme le Seigneur l'attendait jusqu'à aujourd'hui, si nous reconnaissons que nous avons mis cette vie de réserve de côté en quelque sorte, en train de prendre la poussière au lieu de la mettre au service de Dieu, nous allons nous repentir de cela. Et comme Dieu va nous conduire, nous allons aussi prendre l'engagement de mettre aujourd'hui notre vie au service de Dieu. Le Seigneur dit que il a fait de nous aussi son corps qui est l'Église. Et se mettre au service de Dieu, c'est aussi accepter de s'intégrer dans la famille de Dieu qu'on appelle l'Église. Un chrétien ne peut pas vivre seul de son côté et dire « c'est ma vie, je fais ce que je veux ». Non, ta vie ne t'appartient plus, mais elle appartient au Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Nous allons donc prier afin de remettre nos vies en règle et de dire au Seigneur que nous lui consacrons notre vie aujourd'hui afin d'être des instruments pour sa gloire. Seigneur Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur, d'avoir géré nos vies comme étant notre propre chef. Nous te demandons pardon, Seigneur, d'avoir géré notre temps comme s'il nous appartenait, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur Dieu de gloire, d'avoir décidé de te servir quand on le voulait, Seigneur. Ce matin, Seigneur de gloire, nous nous rappelons que lorsque nous t'avons dit oui, Seigneur, nous t'avons dit oui pour toujours, pour chaque instant, pour tout moment, Seigneur. Et si toi, tu nous appelles tes enfants, c'est parce que constamment devant toi, nous sommes tes enfants. Quel est le Père, Seigneur de gloire, qui dirait « Tu es mon fils aujourd'hui, demain tu ne l'es pas, tu seras mon fils la semaine prochaine, Seigneur. » Non, nos enfants sont nos enfants et c'est comme ça que toi tu nous as acceptés. Mais Seigneur, aide-nous aussi à t'accepter comme notre Seigneur de cette même manière. Que tu sois notre Seigneur en tout temps, à chaque instant, Seigneur. Nous te demandons pardon parce que nous avons été notre propre chef. Seigneur, conduis-nous dans toute la vérité, ô Dieu. Montre-nous, Seigneur de gloire, ce que tu attends de nous dans l'Église, Seigneur. Car tu nous appelles à vivre comme une famille. Nous ne voulons pas inventer une manière de vivre l'Évangile, Seigneur, mais nous voulons tout simplement imiter ceux qui l'ont reçu avant nous. Or, la Bible dit que ceux qui acceptaient l'Évangile, Seigneur, eh bien, se retrouvaient avec les autres disciples. Et ensemble, ils persévéraient dans la prière. Ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, Seigneur. Seigneur, c'est cette vie que nous voulons imiter. Car c'est de cette manière que tu as béni ton Église. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous avons besoin de toi. Ouvre-nous les yeux. Renouvelle notre intelligence, Seigneur, car nous venons nous abandonner entre tes mains. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Et nous nous sommes éloignés de toi. Seigneur, mais nous voulons revenir à toi ce matin. Car tu dis dans ta parole que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Seigneur, nous venons à toi ce matin. Nous venons nous abandonner entre tes saintes mains, Seigneur. Parce que tu es notre papa. Tu es notre papa, Seigneur, et nous savons que tu ne vas pas nous rejeter. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, devant toi, avec assurance, Seigneur. Alléluia.